Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, des femmes leaders peules jouent un rôle essentiel dans la réduction des frictions avec les communautés agricoles. Des cartes numériques sont établies pour délimiter les frontières, nous dira le reportage de Henry Wilkins. Expulsion de centaines de Burkinabés, essentiellement d'ethnie peul du Ghana. Nous aurons le constat de la situation et les témoignages depuis la commune frontalière de Dakola. C'est aussi notre fait marquant de la semaine. La biennale artistique et culturelle du Mali fait son grand retour après 13 ans d'interruption. À Mopti, vous nous suivez en direct sur VOA Afrique, Facebook et YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Je vous le disais tout à l'heure, les femmes leaders peul, un groupe ethnique d'éleveurs essentiellement nomades d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, affirmer que les femmes peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction des tensions de longue date avec les communautés agricoles. Dans ce reportage au lac Tchad, Henry Wilkins rencontre des femmes qui établissent des cartes numériques pour délimiter les frontières entre les deux communautés. Le récit est signé Ginny Niwa.
Au bord du lac Tchad, les membres de la communauté Fulani, un groupe d'éleveurs nomades que l'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, sont en conflit avec les agriculteurs depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Le bétail s'introduit dans les fermes et mange les récoltes, tandis que les agriculteurs labourent les terres traditionnellement utilisées par les peuls comme pâturage. Une organisation à but non lucratif, l'Association des femmes et des peuples autochtones du Tchad, tente de remédier à cette situation à travers un projet qui s'appuie sur les connaissances locales des femmes pour élaborer des cartes. Grâce aux discussions menées par l'AFPAT, les agriculteurs et les éleveurs se mettent d'accord sur l'utilisation des terres. La fondatrice de l'AFPAT, Hindou Ibrahim, a déclaré à la VOA que les cartes sont bénéfiques aux éleveurs.
Les cartes permettent aux éleveurs de mettre en avant toutes les connaissances traditionnelles qu'ils possèdent, car il n'y a pas de science ou de technologie dans ces communautés. Cela peut aider à atténuer le conflit entre eux, car lorsqu'ils cartographient les ressources, ils savent comment mettre en place une stratégie claire de partage et d'accès à ces ressources, tout en les conservant à long terme.
Hindou Ibrahim, qui a reçu de nombreux prix internationaux pour son activisme en faveur du rôle des femmes dans la société et des questions environnementales, affirme que les femmes ont joué un rôle essentiel dans les discussions qui ont permis d'établir ces cartes.
Les femmes ont un savoir traditionnel très important et très riche. Et la plupart du temps, nous ne considérons pas que les femmes peuvent venir et contribuer à la prise de décision. Parce que nous sommes tous dans des communautés de prise de décision patriarcales.
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont en partie responsables de l'insécurité en Afrique de l'Ouest et du recrutement par des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Des militantes comme Ibrahim et Aminatou Arbojibo de l'organisation à but non lucratif Fulbe Development et Cultural Organization, basée au Nigeria, affirment que l'autonomisation des femmes et leur implication accrue dans la communauté Fulani peuvent réduire le risque de voir les communautés se ranger du côté des extrémistes. Madame Jibo, qui utilise le terme Fulbe, autre nom du peuple peul, estime que l'alphabétisation est essentielle pour atteindre cet objectif.
Nous ne nous contentons pas d'alphabétiser les femmes Fulbe. Nous leur permettons également d'acquérir des compétences afin qu'elles puissent aider leur famille. Nous les incitons également à cesser de se déplacer d'un endroit à l'autre et à inscrire leurs enfants dans l'enseignement occidental.
Quelle que soit l'approche adoptée, les militantes estiment que les femmes peules ont un rôle essentiel à jouer dans la réduction de l'insécurité.
Alors, nous nous rendons au Tchad pour retrouver André Kodmajinger, notre correspondant sur place. André, bonsoir. André, bonsoir. Vous êtes là? Vous nous entendez? André Kodmajinger? André, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. André, bonsoir, vous nous entendez? Nous avons un problème à nous connecter avec André Kodmajinger. Je vais passer la parole à notre analyste qui est déjà en ligne. Donc, c'est le docteur Célestin Delanga, Simon, chargé de recherche à l'Institut d'études de sécurité. Il réside à Maroua, région de l'extrême nord du Cameroun. Célestin, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous avez suivi ce reportage. Je voudrais avec toi d'abord parler du contexte historique des frictions entre les éleveurs peuls et les communautés agricoles et comment cela a-t-il évolué au fur du temps.
Alors, il faut déjà dire que le bassin du lac Tchad en particulier s'étend sur au moins 4 pays qui se partage ce lac, connu sous le nom de lac Tchad. C'est un espace à forte pratique commune où des échanges et des facteurs d'homogénéité sociale sont denses. Et dans ce contexte-là, l'accès aux ressources et plus particulièrement à le contrôle des terres a de tout temps opposé les éleveurs Fulani ou Arabes Choua, nomades, aux peuples agriculteurs ou pêcheurs sédentaires. Au fil des années, le réchauffement climatique et la poussée du désert ont produit des effets en rendant notamment les terres arides. L'eau devient de plus en plus rare dans les zones périphériques du lac. Les nomades se sédentarisent peu à peu et discutent désormais des espaces avec les agriculteurs. Cela crée des conflits. Cette situation s'exacerbe notamment avec l'avènement de l'insurrection Boko Haram, obligeant le nomade à fuir les brousses pour se rapprocher des villages, partageant ainsi des espaces avec les agriculteurs, et cela crée des tensions et des conflits.
Oui, vous venez de suivre cet exemple au Tchad. Existait-il des initiatives similaires dans d'autres régions touchées par les frictions entre communautés agricoles et pasteurs nomades? Quels sont les résultats obtenus?
Le département du Logone-Chari au Cameroun, par exemple, est connu pour avoir été le théâtre des affrontements sanglants entre les agriculteurs et les éleveurs. Les solutions basées sur la délimitation des frontières est ici au centre des débats. Les réponses basées sur l'aménagement du territoire et la réforme foncière, par exemple, sont préconisées par les acteurs. L'accent est surtout mis sur la délimitation des zones de pâturage, des pistes à bétail, la délimitation des zones polyculture agricole et des zones de pêche. Et le strict respect de ces frontières éviterait les conflits entre éleveurs et agriculteurs ou des conflits entre éleveurs et pêcheurs. Il convient de relever que les femmes prennent part à ce débat avec beaucoup d'engouement à travers leur implication dans les actions de la société civile. Les femmes se montrent dynamiques dans les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire, mais aussi d'animation de groupements, notamment.
Et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette expérience au lac Tchad pour promouvoir la participation des femmes dans d'autres contextes de conflit entre communautés?
Plusieurs organisations de femmes ou organisations dirigées par les femmes, par exemple, faisant partie de la plateforme de prévention de l'extrémisme violent de l'extrême nord du Cameroun, pour ne citer que cette plateforme, s'illustre brillamment dans les activités de gestion des résolutions de conflits agro-pastoraux des conflits entre pasteurs et pêcheurs. On peut alors comprendre que les femmes sont des excellentes médiatrices et des conseillères. Elles sont dynamiques et entreprenantes. Elles excellent dans les activités de sensibilisation, comme nous l'avons si haut signalé, et de plaidoyer auprès de décideurs. Bien plus, ce type de conflit, qu'est le conflit entre agriculteurs et éleveurs, ne touche pas que des hommes, mais aussi des femmes. Car autant il y a des femmes nomades, pasteurs, derrière le bétail, autant il y en a celles qui pratiquent de l'agriculture. Autant elles peuvent être des actrices dans ce type de conflit, autant elles peuvent être des victimes. Les impliquer, c'est garantir une paix durable et prendre en compte les spécificités de genre dans la résolution des conflits agro-pastoraux. Cette implication des femmes doivent inspirer les sociétés, les communautés qui font face à ce genre de conflit.
Célestin, restez en ligne. Je vais prendre notre correspondant André Kodmajinger. André, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes là?
Oui, Eric, je suis en ligne.
Oui, André, comment ces femmes leaders de la communauté Peul au Tchad sont-elles parvenues à s'imposer au sein de leur communauté et à être reconnues comme des actrices clés dans la promotion de la paix?
Oui, il y a une association donc de femmes Peul au Tchad du Tchad qui est une organisation politique d'ailleurs, qui a but non lucratif, j'y arrive, voilà, qui a été créée donc en 1999 et qui vise donc l'amélioration des conditions de population de Peul en général et des femmes tchadiennes en particulier à travers plusieurs promotions, plusieurs programmes d'ailleurs, la promotion par exemple des droits de l'homme, des droits de peuples autochtones. Il y a également dans leur programme la protection de l'environnement dans le cadre de trois conventions, par exemple la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et également qui est donc appelée communément convention de Rio. Il y a également la convention donc nationale des Nations Unies sur la diversité biologique et la convention nationale unie sur la lutte contre la désertification. Mais il faut dire que pour que ces femmes puissent s'affirmer dans le cadre donc de maintien de la paix, il fallait donc appliquer ce qu'on appelle le statut de la femme et de l'enfant contenu donc dans le code de famille qui divise donc les communautés tchadiennes aujourd'hui. Vous savez, par exemple, le point de divergence qui pose problème jusqu'à aujourd'hui dans ce code de famille, nous avons par exemple l'âge du mariage pour les filles, le divorce, l'interdiction par exemple de frapper son épouse. Donc c'est une question de culture qui n'agrée pas donc une partie de la communauté. Je voulais parler notamment de la communauté musulmane qui a donc élaboré un autre code de famille qui est déposé donc au niveau de l'Assemblée nationale sous le règne de Déby, par exemple, le maréchal paix à son âme. Et donc cette communauté ne veut pas, par exemple, la légalité entre l'homme et la femme, ne veut pas, par exemple, que un homme ne puisse pas frapper sa femme. Donc du coup, les femmes se voient donc un peu exclues dans la recherche de voies et moyens pour peut-être, par exemple, consolider la paix. Donc voilà un peu ce que la femme tchadienne traverse en ce moment.
Merci André pour toutes ces précisions. Nous avons compris qu'il y a des défis à relever. Je reviens vers vous, Célestin. Comment les gouvernements et les organisations peuvent-ils soutenir et renforcer le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la coexistence harmonieuse entre les communautés agricoles et les pasteurs nomades?
Alors, le gouvernement doit encourager le leadership féminin en confiant aux femmes des postes de responsabilité en matière de gestion de conflits. Nous souhaitons, par exemple, voir des femmes nommées gouverneurs dans les régions en pleine reconstruction post-crise, des femmes préfets ou sous-préfets dans des arrondissements ou départements qui font l'objet des incursions de groupes armés ou qui sont le théâtre des affrontements sanglants entre agriculteurs et pasteurs. Les organisations, quant à elles, peuvent aider les femmes en matière de formation, de renforcement des capacités, de structuration. Ces organisations peuvent aider les femmes à développer leur potentiel en matière de résolution de conflits, de la promotion du vivre ensemble harmonieux et de la paix. En raison de leur capacité à financer les projets, à mobiliser des fonds, ces organisations sont appelées à prêter une oreille attentive aux projets qui impliquent les femmes dans la gestion et la résolution des conflits. Cela permettrait à ce que les questions spécifiques au genre soient prises en compte dans le processus de paix dans les communautés affectées par des crises.
Merci, Dr. Célestin Delanga. Simon, je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'Institut d'études de sécurité ISS et vous résidez à Maroua, région de l'extrême nord du Cameroun. Merci beaucoup pour votre expertise et votre perspective. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Depuis plus d'une semaine, des centaines de Burkinabés, principalement de l'ethnie Peul, ont été expulsés du Ghana. Et parmi ces individus, certains ont été accueillis et installés à Dakola, une commune burkinabé située à la frontière avec le Ghana. Notre correspondant Gilles Dasda s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Regard perdu dans le vide, Aïcha, nom d'emprunt, se demande ce qui a bien pu se passer pour qu'elle et les siens soient expulsés du Ghana. Elle vivait dans ce pays depuis plus de 10 ans.
Je revenais du Marigo quand j'ai vu les militaires en train de frapper nos hommes. Je suis alors partie pour chercher mes enfants dans notre maison et ils m'ont frappée.
C'est ainsi qu'elle et certains membres de sa famille, dont ses 5 enfants, seront ramenés de force au Burkina sans rien.
On n'a rien pu prendre comme bien et argent.
En fait, elles sont des centaines à avoir été chassées du Ghana. Des personnes expulsées, installées temporairement dans une école de Dakola, commune située à la frontière avec le pays de Kwame Nkrumah. Et pour ces personnes, impossible d'emporter quoi que ce soit. C'est ce que nous dit ce proche de personnes expulsées. Le sujet est tabou et personne ne souhaite parler à visage découvert sans l'autorisation de l'administration.
Tous leurs biens sont restés au Ghana, ainsi que leurs animaux. Personne n'a pu emporter même un poulet.
Et il y a bien pire.
De nombreuses femmes ont leurs enfants qui sont restés au Ghana. Parce que quand ceux qui expulsent viennent, ils t'en battent comme ils t'ont trouvé. Beaucoup de femmes n'ont pas pu prendre leurs enfants avec elles. Parmi ces enfants, il y a des nourrissons. Ceux qui sont allés les expulser ont refusé de les écouter. L'armée ghanéenne continue toujours d'expulser les gens là-bas.
Courant semaine passée, des membres du gouvernement burkinabé étaient passés pour s'enquérir de la situation. Le nombre de personnes expulsées montait alors à 250, chiffre officiel. Depuis, à Dakola, de nouveaux arrivants sont venus grossir les rangs des expulsés dont certains vivaient au Ghana depuis plus de 20 ans. Et selon nos informations, d'autres vagues d'expulsion seraient en cours. Ici, ces hommes et femmes chassés du Ghana ont été transférés sur de nouveaux sites gardés par des forces de défense et de sécurité. Le Ghana, quant à lui, affirme n'être pas au courant d'expulsion de Burkinabés de son territoire. Gilles Dasda de retour de Dakola, VOA Afrique.
Ces expulsions de Burkinabés depuis le Ghana, dont une grande partie est de l'ethnie Peul, ont été signalées dans les médias. Les mouvements de population transfrontaliers sont relativement courants dans cette région à raison des migrations économiques et des tensions ethniques. C'est notre fait marquant de la semaine. Gildas Da est avec nous en ligne pour en parler. Gildas, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Très rapidement, pourquoi ces expulsions ont-elles principalement visé les membres de l'ethnie Peul?
Ouf, à la vérité, Eric, il faut se dire que les Peuls sont un peu considérés à tort comme étant le principal contingent en fait qui alimente les groupes armés terroristes. Vous avez cette même considération au Burkina, vous avez cette même considération au Mali, et dans l'entendement des populations générales, en fait, on confond les terroristes et puis le Peul, ce qui n'est pas du tout vrai, parce que si vous prenez le cas du Burkina, les Peuls font partie des premières victimes du terrorisme. On a le cas des attaques de Solhan, où les massacres concernaient principalement les Peuls, et on a le cas des attaques de Seitenga aussi, où c'était des Peuls qui étaient principalement massacré, s'il vous plaît.
Et quelle est l'opinion publique locale à Dakola et sur le plan national sur ces expulsions et sur la manière dont elles sont gérées par les autorités?
À Dakola, il faut dire que il y a beaucoup de tristesse. Hein. Dakola abrite une forte communauté Peul, parce que Dakola, c'est un village Gurunsi, mais la deuxième communauté après les Gurunsi, ce sont les Peul. Donc c'est une communauté qui est aux premières lignes. Donc on parle de tristesse, bien sûr, sur le plan local, vous vous rendez compte que les gens sont vraiment tristes. Mais au plan national, peu de gens savent en fait qu'il est question d'expulsion de Peul burkinabé. En fait, on pense que ce sont des Burkinabés sans distinction qui ont été chassés du Ghana. Et cela meurtrit les populations, parce qu'entre les deux pays, Ghana-Burkina, il existe en fait une longue tradition d'entraide. Et le Ghana accueille une forte communauté de beaucoup de réfugiés burkinabés, en fait, dû au terrorisme. Et malheureusement, de l'autre côté, on se rend compte que c'est le même Ghana qui expulse des Burkinabés qui sont installés sur son sol depuis des décennies.
Y a-t-il des efforts de médiation ou de dialogue entre les gouvernements du Burkina et du Ghana pour résoudre cette crise et surtout empêcher de futures expulsions?
Oui, franchement, là, si je réponds à cette question, je vais un peu trop m'aventurer, Eric, mais je ne peux pas dire grand-chose. Mais de ce que je sais, sur le plan diplomatique, les autorités burkinabées avaient dit qu'elles avaient informé le Ghana, qu'elles avaient demandé au Ghana, elles avaient parlé au Ghana pour savoir ce qu'il se passait réellement. Mais l'autre souci, c'est que le Ghana officiellement dit qu'il n'y a pas d'expulsion. Donc, ça serait un peu prétentieux de ma part de m'aventurer sur le sujet. Ce qui est sûr, les expulsions continuent. Hein.
Ça continue. Et quelles sont les conséquences économiques et sociales de cette expulsion de l'ethnie Peul qui ont été expulsés sur les communautés locales à Dakola, en quelques secondes?
Voilà, je vous disais déjà, Dakola déjà connaissait un ralentissement des activités économiques dû au terrorisme au Burkina depuis plusieurs années. Excusez-moi. Et avec l'expulsion en cours, c'est la communauté Peul locale qui est aux premières lignes, en fait. Et si vous êtes à Dakola, vous vous rendez compte que c'est une communauté qui est vraiment bien intégrée sur le plan économique. Les boutiques, les boucheries, les différents commerces, se sont tenus par des Peuls. Et avec la situation qu'il y a en cours, Dakola prend un coup supplémentaire sur le plan économique. Et la communauté Peul de Dakola est obligée de se mettre au premier rang, parce que certains sont obligés de laisser leurs activités pour aller accueillir les autres membres de leur communauté, parce que les expulsés ont peur.
Merci Gildas pour toutes ces explications. On n'a plus de temps. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. La Biennale artistique et culturelle du Mali fait son retour après une interruption de 13 ans. Du 6 au 16 juillet, Mopti, la grande ville multiculturelle du centre malien, a accueilli l'édition 2023 de cet événement sous le thème « Le Mali, une seule histoire, une seule nation, un même destin ». Cette manifestation majeure de l'art et de la culture a réuni pendant 10 jours les 19 régions du Mali, ainsi que le district de Bamako de Mopti, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Le retour de ce grand événement culturel riche en couleurs est un message clair. Selon Adama Samachekou, vice-président de la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, le thème de cette année marque la renaissance d'un Mali nouveau.
Faire en sorte que le retour de la biennale soit placé sous le signe d'une telle thématique a du sens. Cette reprise en main du destin du Mali se passe à un moment historique de rupture d'avec tout schéma néocolonialiste. Et le Mali a posé un acte très fort à travers l'adoption de sa dernière constitution, c'est de considérer que les langues nationales du Mali sont désormais les langues officielles du Mali. C'est pour marquer le début de la reprise de notre souveraineté culturelle et linguistique.
Ainsi, pendant 10 jours, les 19 régions que compte le pays, ainsi que les districts de Bamako, ont étalé la diversité ethnico-culturelle du Mali. Des moments très intenses, mais aussi des retrouvailles, comme l'explique Dédé Missaoud, coordinateur de la troupe régionale de Taoudéni.
La grande découverte que j'ai faite, c'est quoi? C'est que moi, je vis avec Koutiala. Koutiala, on est dans la même cour. Koutiala, chaque fois, chaque matin, ils nous rendent visite. On leur rend visite aussi. Vraiment, il y a eu même échange de numéros de téléphone entre nous. Vous voyez ce que ça fait? On a fait un jumelage. Donc, Koutiala viendra à Taoudéni. Et Taoudéni aussi va partir à Koutiala. Donc, qu'est-ce qui est encore plus bon, plus meilleur que ça?
Pour les autorités communales de Mopti, l'organisation d'un tel événement est une occasion pour donner une nouvelle image dans la région qui a beaucoup souffert de l'insécurité. Amadou Kondo, deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Mopti, ne cache pas sa satisfaction.
La région de Mopti avait besoin d'un tel événement pour se donner une nouvelle image et la biennale a été une occasion. En plus, ça a été aussi un boom économique dans la région. Sur le plan touristique, les hôteliers, les femmes qui vendent de la glace, presque tout le monde a eu sa part dans cette histoire de la biennale. Vraiment, nous souhaitons que l'État pérennise cette activité culturelle.
Djenebou Keïta, beaucoup estiment que ce brassage culturel peut être un vrai instrument pour consolider la paix dans le pays.
On peut espérer qu'il peut y avoir la paix au Mali. Il suffit seulement que les différentes couches se donnent la main, se comprennent, se parlent. Le problème de la paix, c'est la communication. Je trouve qu'il n'y a pas assez de communication entre nous, Maliens. Il y a des gens qui informent, il y a des gens qui déforment, il y a des gens qui désinforment. On ne pouvait jamais imaginer qu'on pouvait se rendre à Mopti sans qu'on soit attaqué. Parce que c'est ça qui était ancré dans nos têtes, qu'on ne peut pas arriver à Mopti. Mopti, c'est une zone rouge, Mopti, c'est une zone très dangereuse, il y a des djihadistes sur la route. Vraiment, nous sommes arrivés ici à bon port.
Le Burkina Faso, invité d'honneur de l'édition de Mopti, était représenté par son ministre de la Culture, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il a été fait saluer de l'ordre par le Premier ministre du Mali. Tidiane Ouédraogo, Mopti, VOA Afrique.
Merci à Tidiane Ouédraogo et c'est sur cette note positive que s'achève cette édition de Focus Sahel. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza a été avec vous au micro. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. 13h Matondo a assuré la diffusion sur Facebook. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.